I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission qui résume toute l'actualité de l'univers merveilleux des jeux vidéo. J'en perds mon latin. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne résume pas grand-chose, enfin de l'actualité en tout cas. On fait un épisode spécial qui vous accompagne pendant qu'il n'y a pas d'épisode normal aujourd'hui, ce jeudi, si vous écoutez à la sortie. Mais on va faire un épisode spécial, comme vous l'avez vu dans le titre, sur le speedrun, sur un petit peu expliquer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, tout le drama dans la communauté, parce qu'on m'a promis beaucoup de drama, mes invités m'ont promis beaucoup de drama. Je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir pour cet épisode deux personnes qui sont très impliquées dans la communauté du speedrun. On a d'une part un autre Patrick, Patrick Silvera, alias Oupla, O-O-P-L-A. C'est pas O-U-P-L-A, attention, c'est très différent. Bonjour Patrick, comment ça va ?
Bonjour, ça va bien et toi ?
Écoute, ça va très bien. Moi, je suis notre Patrick et toi, t'es Patrick, donc ça va, on va pas trop se marcher dessus. merci Patrick d'être avec nous. Et on a aussi Johan, alias Linkboss, Johan Laurent, qui fait partie de l'association Speed Them All, qui organise des événements de speedrun. Bonjour Johan.
Bonjour, comment ça va ?
Eh bien écoute, très bien, je suis bien accompagné, donc forcément je suis heureux d'être là et j'espère qu'on va parler de plein de trucs super intéressants et que je vais apprendre plein de choses. Comme on disait avant qu'on ne commence l'enregistrement, je vais certainement dire beaucoup de bêtises et donc vous m'interrompez. Hein. Si à un moment je dis un truc que je sors de je sais pas où, vous dites non mais Patrick arrête, c'est bon, je vais expliquer, laisse-moi parler.
Pas de problème. Il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à dire sur le speedrun. Voilà.
Exactement. Et donc, on va se lancer, tout de suite, juste après que j'ai remercié les Patriotes, les producteurs cette fois-ci. Je remercie les Patriotes producteurs qui contribuent à l'émission financièrement. Chablex, Lancelot Davizard et Steph Sinelco, merci à vous trois. Vous êtes fidèles depuis des mois, des années. Et c'est grâce à vous aussi que l'émission existe. Donc, un grand merci à vous. On vous envoie des bisous et des bisous en speedrun, genre rapide, quoi. C'est avec des glitches et des... C'est des bisous et 10%. Donc, on en case 100 en 3 secondes. Voilà. vous comprendrez tout à la fin de cet épisode. On a trois parties, à peu près, pour la discussion. La première, c'est qu'est-ce que le speedrun ? Parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ont entendu le terme comme ça, ici ou là, mais qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, à part... c'est faire des jeux aussi vite que possible, c'est ça ? Bon, on ne sait pas plus.
C'est bien résumé déjà.
C'est
un bon résumé en vrai, hein, mine de rien.
Bah merci, on a fini notre émission. C'était intéressant.
Allez, salut.
Merci à tous les deux. Patrick, toi, tu fais du speedrun. J'allais dire, t'es un professionnel du speedrun. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui gagnent leur vie en tant que speedrunner ?
Alors non, je pense que il y en a pour lesquels c'est une manière de créer du contenu. Mais ça rentre dans la grande catégorie des gens qui peuvent gagner leur vie via la création de contenu de streaming ou autre. Mais pour l'instant, il n'y a pas de quoi vivre du speedrun en lui-même.
C'est pas une pratique suffisante pour en vivre purement et simplement, c'est-à-dire comme un e-sportif standard. Mais ça commence à arriver, mine de rien. On commence à avoir des tournois avec des cash prizes.
Oui, voilà, via les sponsors, ça permet une rémunération, mais ça reste quelque chose de niche, le speedrun.
Oui.
Mais qui se développe, t'as raison, Linkboss, c'est de plus en plus développé.
Bah, c'est sûr que ces dernières années, on en entend parler de plus en plus. Et il y a eu des événements dont on parlera peut-être en troisième partie d'émission qui ont contribué à développer cette popularité. Mais du coup, ma question n'était pas innocente. Quand je dis que tu es un pro du speedrun, Patrick, ou plat, bon, tu n'es pas un joueur professionnel parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais c'est une passion. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le speedrun, au-delà d'essayer de finir les jeux très très vite? C'est quoi cette sous-discipline du jeu vidéo, sous dans le sens que c'est une partie du jeu vidéo? Donc le speedrun, c'est quoi?
Mais c'est exactement ça, c'est terminer un jeu le plus rapidement possible, mais après il y a plusieurs niveaux de profondeur. Donc quand j'étais petit par exemple, que je jouais à Metroid, j'essayais de le finir le plus vite possible parce qu'à la fin il y avait un timer, mais je savais pas trop ce que je faisais. Et maintenant que je me suis mis plus à fond dans la discipline, eh ben, il va y avoir toute une partie de recherche sur le jeu qui va me permettre de le finir beaucoup plus rapidement. Donc il y a, maintenant, dans le speedrun, il y a toute cette dimension de recherche où on va chercher quelle est la technique la plus rapide pour battre un boss. Est-ce qu'il n'y a pas un glitch, donc un bug du jeu qui va nous permettre de passer outre une zone qui n'est pas prévue par les développeurs. Donc il y a tout un tas de recherches et après d'exécution qui va nous permettre de finir ce jeu vite. Mais l'essence du speedrun, c'est finir un jeu vite, ou au moins atteindre un objectif d'un jeu vite. Ça peut être finir un jeu sans aucune condition, ça peut être finir un jeu à 100% très vite, finir un jeu en battant tous les boss le plus rapidement possible. Ça, c'est au choix de chacun et des communautés.
Et des fois des conditions un peu plus marrantes, style comment finir le jeu vidéo. Par exemple, pour Pokémon, je donne un exemple. Pour Pokémon, il y a une catégorie assez connue qui est de finir le jeu en prenant les badges du dernier au premier, pas du premier au dernier. C'est des fois, ils s'amusent un peu. Et pour ça, moi, je fais ce qui différencie le speedrun de simple, on va dire, d'une bonne performance de jeu. C'est en fait, j'en parlais en fait dans un. Ce qui est marrant, c'est j'en parlais il y a 3 semaines à un événement avec quelqu'un qui connaissait pas le speedrun non plus. Et justement, c'est que en fait, nous, les règles qu'on s'impose, en fait, c'est les règles que nous impose le jeu en tant que programme et pas le jeu en tant que truc qu'a fait les développeurs. C'est que derrière, les règles qu'on... Faut savoir que c'est pas de la triche, dans le sens où on n'utilise pas de code de triche ou qu'on n'utilise pas d'action replay ou quoi que ce soit. Par contre, les règles qu'on se donne, c'est les règles que définisse le jeu en tant que programme, dans le sens où s'il y a un bug, on va l'exploiter. Par contre, on va pas forcément suivre du coup ce que fait le développeur. Développeur nous dit on doit passer là, mais si le jeu nous dit qu'on peut passer autre et que c'est plus rapide, bah on passe autre et c'est plus rapide. C'est la différence.
Tu parlais, Patrick, des différents types de speedrun, et c'est ce que tu évoques d'une certaine manière aussi, en passant outre certaines parties du jeu, parce qu'il y a plein de manières de finir un jeu, et si tu trouves un bug qui te permet d'arriver à la fin en 1 minute et demie du lancement du jeu, y a d'autres personnes qui vont dire « Ok, bon, ça c'est une catégorie spécifique, mais moi je veux voir combien de temps ça prend de le faire au plus vite en tuant tous les boss, comme tu l'as dit, en battant tous les boss ou plat. » Donc même à l'intérieur du speedrun, vous l'avez un petit peu évoqué, il y a plein de types de speedrun différents en fait.
Bien sûr.
Ouais.
Libre à toi de choisir ce que tu veux faire. Déjà, le speedrun, c'est une discipline à la base entre toi et toi-même. Donc tu dis, je veux finir le jeu de telle manière. Et après, tu peux rejoindre des communautés qui vont dire, on est plusieurs à finir le jeu de telle manière. Donc si tu veux nous rejoindre et apprendre comment on fait, on va t'expliquer. Il y aura même un classement et tout. Et donc là, il y a plus une dimension communautaire.
Compétitive. Et compétitive, ouais, comme tu le dis, effectivement, il y a un aspect compétitif aussi. Mais du coup, c'est hyper méga fragmenté, le speedrun, parce que tu évoquais les Game Shark, c'est ça? Enfin, les trucs de triche, pardon?
Les Action Replay, Action Replay Game Shark.
Action Replay, Game Shark, et ça, c'est des trucs qu'on connaît si on a utilisé des Game Boy ou des Super Nintendo il y a très longtemps, mais ça veut bien dire que, en fait, déjà, quand on parle d'e-sport, on se dit y a beaucoup de jeux différents, c'est difficile de tout suivre, alors que des jeux compétitifs en e-sport, vraiment, qui ont une grande popularité, il y en a, 5-10 max. Mais en speedrun, tous les jeux de la Terre, y compris des jeux très très vieux, et peut-être même surtout des jeux plutôt vieux, peuvent être un jeu de speedrun. Et en plus de ça, tu peux avoir plein de manières différentes de le terminer. En exploitant les bugs, il y a des gens qui finissent tel ou tel jeu en 2 minutes, comme je le disais. Alors, il y a bien sûr des jeux qui sont plus populaires. Je crois que des jeux comme Metroid ou Zelda, par exemple, au hasard, ils sont bien représentés. Mais je sais que Patrick, toi, tu fais des speedruns sur des trucs beaucoup plus obscurs aussi. Et c'est pas si... Enfin, c'est assez fréquent, quoi, dans la communauté du speedrun.
Oui, on peut même speedrun le démineur. On peut speedrun des jeux sur téléphone mobile. En fait,
n'importe Microsoft Word. On peut speedrun Microsoft Word.
Microsoft Word, pour finir Microsoft Word, du rempli à la mémoire.
Alors, non, il y a une catégorie apparemment dans Microsoft Word, en fait. Après, c'était fait un peu comme une blague envers speedrun, mais c'est toujours marrant, qui consiste en fait de décrire les nombres de 1 à 100 le plus vite possible. Donc c'est 1, espace 2, espace 3. Et je crois, moi, mon meilleur temps était de 7 secondes et quelques, je crois.
7 secondes
ouais.
Ah ouais, d'accord.
7 secondes. Mais en fait, c'est un truc un peu spécial. C'est en fait, on entre dans l'éditeur de macro, on tape une macro qui va être tapée tout d'un coup et fin de l'histoire. Donc c'est.
D'accord.
Voilà, ça triche déjà.
C'est pas de la triche, c'est un raccourci. Nuance.
D'accord.
Mais voilà.
Et oui, on peut speedrun n'importe quel jeu qui vous tient à cœur, ou des jeux pour la blague, des jeux qui se finissent très vite, qui sont pas sérieux. C'est vraiment libre à chacun de choisir ce qui lui fait plaisir. Et après, les jeux plus populaires, Mario, Zelda et compagnie, il y a des grosses, grosses communautés. Et là, on a même des jeux où la compétition, pour parler de la professionnalisation, il y a des jeux comme Super Mario 64 qui sont très, très, très sérieux et qui ont des compétitions avec beaucoup d'argent. Donc, il y a vraiment beaucoup de dimensions.
T'en as une qui arrive là sur la fin d'année, justement, qui est le Break the Record Life, qui a une compétition avec 5 ou 20 de cash prize, 5 ou 20 000 dollars. Mais je crois 5 000, mais pas sûr. Mais voilà, donc on commence à voir, effectivement, en fait, je pense que c'est la même chose en vrai dans l'e-sport, hein, parce qu'il y a plein de jeux e-sport, comme tu disais, des jeux e-sport connus, il y en a genre 5, mais à côté, en vrai, des jeux e-sport, il y en a 15 000. Genre par exemple, on va participer à un événement en janvier où il y a d'e-sport qui sera là-bas aussi, et il y aura des tournois de Halo. Et pourtant, Halo en speedrun, Halo en e-sport...
c'est plus forcément hyper
voilà. Mais par contre ça existe encore, il y a du Quake, il y a encore plein de trucs qui existent, du Doom, il y en a qui font du e-sport sur Doom, mais et en fait le speedrun c'est comme ça, c'est pareil, c'est aussi ça en fait, c'est qu'il y a des parties qui seront très connues et qui deviendront justement la partie e-sportive du speedrun, la partie la plus la partie, on va dire, qui va devenir lucrative, la partie compétitive, ça va se concentrer là-dessus, je pense. Et après il y a tout le reste où ça restera un peu, même moi je speedrun des jeux où il y a genre 3 clampins qui speedrun, quoi. Le jeu, c'est pour le plaisir, c'est parce que j'adore ça, j'adore les jeux. Donc,
mais du coup, c'est une discipline qui est un petit peu plus récente. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a vraiment émergé dans les années 2010, mais on peut aussi le comprendre avec ce que tu expliquais tout à l'heure, enfin ce que vous expliquez un petit peu tous les deux, c'est que c'est une discipline qu'il est difficile de pratiquer. On peut faire ça tout seul dans son coin, mais sans Internet, c'est quand même très compliqué. D'une part, parce qu'il y a des bugs qui sont invraisemblables à trouver, qui sont vraiment hyper compliqués à trouver. Et d'ailleurs, je serais curieux d'entendre comment les speedrunners réussissent à trouver ces bugs, parce que tu fais des bugs de passer dans la géométrie du niveau pour aller plus loin en envoyant un objet spécifique et en tapant de telle manière, ça te fait passer derrière le polygone. C'est hyper compliqué.
Quand on voit le résultat final, c'est on dit, mais comment
ils ont fait,
En fait, un cheminement pour arriver jusque-là qui est beaucoup plus complexe. Il y a souvent plusieurs étapes, mais le résultat final est souvent drôle.
Il y a plusieurs moyens après de trouver un bug, hein, de manière générale. Généralement, les bugs sont trouvés soit par effectivement des mecs qui tryhardent et qui explorent le jeu, soit avec des émulateurs. Ils font pas de run, ils sont pas en train de faire une run, mais genre ils prennent l'émulateur et ils déconstruisent le jeu et ils regardent. Beaucoup de trucs, par exemple, sur l'aléatoire de Pokémon est trouvé comme ça. Et sinon, en fait, des fois même, c'est tout bête, hein, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Je sais pas si vous êtes un peu à l'aise avec ce terme-là.
Oui, oui. Donc, un petit peu le hasard heureux, quoi.
Voilà, le hasard heureux, comme quand Pasteur a découvert la pénicilline, c'est pas Pasteur qui a découvert la pénicilline peut-être, mais je sais plus.
Si, si.
Parfait. Comme quand Pasteur a découvert la pénicilline, en fait, par exemple, je peux donner un exemple, c'est pour Metal Gear Solid, c'est le dernier qui est en gros en date qui est arrivé, justement, c'est pour ça. Il y a une streameuse qui n'est pas une speedrunneuse, qui était une streameuse qui jouait comme ça au jeu, et ben en fait, elle se fait latter par les ennemis dans un endroit, en fait, et elle découvre qu'en fait, en se faisant toucher à un certain endroit, avec un certain angle, tu peux te faire expulser à travers la porte et zapper 5 minutes de jeu. Zapper 5 minutes de speedrun. L'équivalent de 5 minutes de speedrun. En vrai, c'est genre une heure que tu zappes si t'es en jeu normal, mais...
Ouais. Le jeu a quoi, 20 ans et qu'il y a je sais pas combien de mecs qui speedrunnaient ce jeu depuis des heures et qui n'ont jamais trouvé ce truc-là.
C'est ça. Elle a publié le clip et après, environ 15 minutes après, t'as tout le Discord des speedrunners de Metal Gear Solid qui s'est retrouvé en ébullition avec tout le monde en vocal en train d'essayer de reproduire le bug et de trouver une manière fiable de le faire. Et maintenant, c'est elle, le bug, le skip, je sais plus comment il s'appelle, ils lui ont donné le nom de la streameuse, je crois. Le skip est fiable et utilisé en speedrun, même en marathon et tout.
Ouais. Donc il y a vraiment des. Voilà. On parlera peut-être de ça dans une seconde. Je veux dire, un autre aspect qui fait que c'est difficile d'avoir du speedrun sans Internet, c'est aussi pour la comparaison, au-delà du partage des astuces, c'est la comparaison des scores. Sans Internet, on ne va pas envoyer des temps aux magazines qui vont les publier. Genre pour
alors, je crois qu'au début, c'était comme ça.
Ouais, je me souviens,
qui s'appelle Speed Demos Archive. Je crois qu'il envoyait des cassettes au début des enregistrements.
Ouais, c'est ça, il envoyait des cassettes, mais genre, il y a 15 ans, ça. Mais...
c'était au tout début.
Et puis, tu vas pouvoir dire, j'ai fini tel jeu en tant de temps, mais ça va être très limité comme catégorie. Là, il y a des millions de catégories et des rankings, des charts très spécifiques. Mais du coup... Pardon, vas-y.
Ça s'est démocratisé avec effectivement speedrun.com qui arrivait, je crois, en 2015, peut-être un peu avant 2014. Derrière, faut pas oublier que ça, c'est alors pour moi, c'est un point de vue. Il y a un grand débat dans la communauté. Il y a un grand débat sur justement cette notion de compétitivité dans le speedrun. Mais pour ma part, la compétitivité, c'est un côté annexe aussi, dans le sens où c'est toi qui te mets par rapport aux autres. Mais le speedrun, ça reste entre toi et le jeu. T'es pas obligé d'avoir internet. T'es pas obligé d'avoir. Tu peux faire ton speedrun dans ton coin sans te baser sur les runs des autres, en faisant comme tu veux et juste en apprenant toi-même. Et par exemple, il y a des cas où on a même accueilli. Par exemple, le week-end dernier, on était à Caen avec Speedzemol. On a fait un petit truc dans un bar. Le premier mec qui est arrivé, il faisait juste. Enfin, il a fait du Mario Kart double dash, ok. Il a fait toutes les courses, donc c'est un speedrun, c'est toutes les courses, tu fais toutes les courses le plus vite possible. Et il faisait ça dans son coin sans se documenter à côté, quoi. C'est juste que c'est un mec qui adore le jeu, il s'entraîne.
Bien sûr, on peut, mais le fait que ça soit fédéré en communauté et qu'il y ait une telle visibilité, je pense que c'est quand même parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu... tu peux voir si ton score... et bon ou mauvais par rapport aux autres, même si tu le fais contre toi-même, c'est quand même un élément important de cette communauté, quoi.
C'est un élément important, mais c'est pas un élément essentiel, dans le sens où tu n'es pas, d'un point de vue stricto sensu, tu n'es pas obligé d'avoir, tu peux speedrunner sans internet.
Ça dépend des gens. Moi, je sais que ça me motive. J'aime bien la compétition contre moi-même, mais à terme, je sais que je veux aller vers un leaderboard de la compétition et tout. Mais je sais que c'est complètement propre à chacun.
Ouais, ça dépend des personnes. Par exemple, y a Étienne, un autre speedrunner qui est dans l'assaut. Justement, lui, il est très compétitif. Là où moi, je suis plus dans l'autre sens, je suis plus c'est toi contre le jeu. Et puis.
Justement, on parlait un petit peu du fonctionnement de tout ça. D'un point de vue technique, je suis curieux de savoir comment ça se passe, ne serait-ce que pour traquer, valider une progression. Si on essaye justement de se faire... si on veut mettre son score sur speedrun.com, qui est un petit peu la réunion centrale des speedrunners. Et il y a beaucoup de Discord aussi qui sont spécifiques par jeu pour les communautés, pour discuter de plein de choses. Mais si on est simplement en train de streamer sur Twitch tranquillement pour soi, il n'y a peut-être pas forcément besoin de preuves inviolables. Mais j'imagine qu'à partir d'un certain niveau pour certains jeux, Est-ce qu'il y a un moyen de valider ton score? Est-ce qu'il faut le streamer entièrement sur Twitch pour qu'on ait une trace? Est-ce que tu peux juste envoyer, bah, moi je l'ai fini en 1h04 et tu envoies ton score sur speedrun.com et c'est accepté et basta. Comment ça se passe cet aspect-là? Est-ce que, je pose une question bête, mais est-ce qu'on peut jouer sur émulateur? C'est valable? Ou alors est-ce qu'il faut avoir la console d'origine, qu'on va connecter à un PC par exemple, ou même pas, ou est-ce que c'est deux catégories différentes encore, techniquement?
Ça dépend, en fait, ça dépend des communautés de manière générale. D'accord. Il y a des communautés qui sont très laxistes, genre par exemple, je donne un jeu que je speedrun qui est Mickey Mania, sur Mega, je fais la version Mega Drive, donc un jeu qui a 25 ans maintenant. Ce jeu-là, c'est simple, les personnes qui géraient le speedrun, en fait, n'avaient pas forcément envie de devoir gérer toutes les soumissions, donc en fait, bah, là, il y a soumission libre, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de vidéo, il n'y a pas de validation sur ce truc-là. Alors là, c'est un cas un peu extrême, mais tu peux soumettre ton temps et juste sans vidéo, sans rien, il apparaît sur le leaderboard, sur le classement. Fin. Mmh. Par contre, après, il y a d'autres communautés justement qui disent tu peux le runner sur émulateur, tu peux le runner sur console, mais il faut que ça réponde à telle règle. Par exemple, certains qui disent on peut le runner que sur tel émulateur ou on peut runner que telle version. Parce que des fois, il y a des versions qui sont un peu trop, on va dire, cassées. Genre, par exemple, les versions officielles Nintendo qui sortent sur Nintendo 3DS, par exemple, qui arrivent. Un exemple de communauté qui est très, très embêtante avec ces règles-là, c'est la communauté Pokémon, de manière générale. chez Pokémon, tu as le droit à une version spécifique d'un émulateur. C'est n'importe quoi. Tu es obligé de runner sur version originale et que la version anglaise, pas la version française. Enfin, voilà, il y a des trucs. D'accord. C'est un peu n'importe quoi. Mais en gros, ça dépend de manière organique,
chaque communauté s'organise. J'imagine, comme on disait, qu'ils ont des sites, surtout des Discord aujourd'hui. Et chaque communauté s'organise à sa manière, de manière complètement organique. Il n'y a pas de règles, genre on va suivre les règles de Speedrun Boss Alpha qui a établi tel et tel truc ou de telle organisation. C'est vraiment chaque communauté qui est entièrement libre de définir ses propres règles.
Ouais. Bon, après, elles se copient les unes entre elles, les communautés, mais en vrai, j'ai l'impression que chacun repart un peu de zéro à chaque fois.
C'est ça. Mmh. En fait, généralement, quand ils font des règles, généralement, des communautés qui sont moins grandes, de jeux moins connus, s'inspirent de ce que font les gros. Parce qu'il y a des trucs un peu généralistes qui sont récurrents, genre par exemple, il y a pas mal de jeux où on dit faut qu'on redémarre le jeu de manière visible au début de l'enregistrement. Quand on fait il faut soumettre une vidéo. Oui. Et quand tu soumets ta vidéo, tu redémarres le jeu de manière visible au début de l'enregistrement. Ouais. Tu fais pas parce qu'il y a des cas où tu pourras avoir en fait déjà mis des trucs en mémoire avant de commencer le jeu, et ça pourrait provoquer des bugs après, tu vois. C'est des trucs. Il y a plein de trucs comme ça. Mais ça dépend des communautés.
Il y a des communautés où tu dois enregistrer ton truc, soumettre la vidéo comme trace, comme preuve. Ça va pas au point où il y a, enfin, j'en sais rien, mais un logiciel officiel pour les grandes compétitions ou les trucs hyper. Hyper disputé, qui va aller surveiller que t'as pas un truc sur ton ordi qui va te permettre de tricher ou d'ajuster les contrôles ou j'en sais rien, un truc de genre. Ça va pas jusque là. C'est la preuve ultime, c'est une vidéo, c'est ça?
Ouais, tout se base sur la vidéo, la confiance.
Ouais, c'est ça. On est encore à ce point-là. On n'est pas au point où on fait ça. Après, derrière, il y a des cas un peu spécifiques. Je reviens à la catégorie Pokémon, par exemple.
Décidément,
cela. Je reviens à Pokémon, par exemple, où l'émulateur qu'ils utilisent, quand tu joues sur émulateur, donc c'est une version bien spécifique, et l'émulateur imprime sur l'écran de la console affiché la release, en fait la version sur laquelle il tourne. Par exemple, c'est marqué R637 pour release 637, et du coup ça permet, on va dire, et aussi une impression en fait de l'idée de la cartouche pour bien indiquer que c'est bien une cartouche, enfin ce qu'on appelle un checksum, c'est, sans rentrer dans les termes techniques, c'est pour indiquer que la cartouche est bien, enfin la ROM est bien une ROM non modifiée, et parce qu'ils sont très très embêtants Pokémon, ils sont voilà, mais ils sont limite plus embêtants que d'autres catégories avec plus de runners. Genre par exemple, les runners de Pokémon sont plus embêtants que Zelda, de manière générale.
Ah oui.
C'est ouais. Zelda, tu peux runner avec n'importe, enfin avec à peu près n'importe quoi. C'est vraiment. C'est il y a juste les simulateurs, mais... ils sont un peu embêtants. Mais
Pokémon,
sinon,
quand ça rigole genre... pas. C'est sérieux les Pokémon.
Ah ouais. Okay. Ah ouais, ils sont sérieux.
Après, plus tu joues à un jeu qui est populaire sur les classements, plus tu auras des règles strictes. J'arrive pas à me rappeler. Je sais qu'il y a un jeu où à la fin, si tu as le world le record du monde ou t'as un très très bon temps, il faut que tu démontes ta manette pour montrer qu'elle n'est pas modifiée. J'arrive plus à me rappeler quel jeu c'est, mais il y en a qui
parlent vraiment. Tu démontes ta manette.
Ouais, c'est super. Ça doit être probablement.
C'est Mario 64, non?
Ouais, non. Je sais pas, mais je pense que. Je ne sais pas ce que c'est, mais je dirais plutôt que c'est genre un super Metroid ou un Super Mario SNES ou un truc dans le genre. Dans le sens où, sur la SNES, en fait, par défaut, la manette, tu ne peux pas appuyer sur droite et sur gauche en même temps, sauf qu'à l'intérieur de la manette, en limant un petit morceau de plastique, tu peux appuyer sur droite et sur gauche en même temps, ce qui permet de faire des mouvements un peu différents et des fois d'aller plus vite.
D'accord.
Voilà, on parle d'extrême. Hein. Après, voilà. Bon, 99% des cas, tu peux t'enregistrer en train de jouer tranquille et ça va passer.
C'est ça, voilà. Perso, moi, je m'enregistre voilà. Et après, sinon, pour les événements, généralement, les événements utilisent leur propre timer, de manière générale. Les gros, en tout cas. Les petits utilisent pour tout ce qui est timer, de manière générale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on utilise tous un chronomètre. On a un logiciel de chronomètre qui est à peu près utilisé par tout le monde qui s'appelle LightSplit. Mais généralement pour les gros events utilisent leur propre chronomètre, ne serait-ce que pour des raisons visuelles déjà, parce que ça s'intègre mieux dans leur habillage, derrière c'est souvent ça et c'est lui qui fait foi.
Justement, je parlais de programmes qui analysent ta machine, on ne va pas jusque là. Mais par contre, en regardant des speedruns, il y a toujours effectivement des chronomètres ou même d'autres détails sur le jeu ou la progression ou le run. Ouais. Ça, c'est des trucs qui sont développés par chaque communauté spécifiquement ou c'est LightSplit qui fait tout ça?
C'est LightSplit qui fait tout ça.
LightSplit, d'accord. Ouais.
C'est les splits, en fait, tout ce que tu vois sur le côté, en fait, avec justement chaque, ce qu'on appelle split, chaque partie, en fait, chaque étape, tout ça, c'est géré par un logiciel qui s'appelle les splits, en fait, et c'est lui qui affiche tout d'un coup.
Mais il connaît tous les jeux et il regarde l'écran pour voir où t'en es, ou c'est toi qui appuies sur un bouton pour dire je suis passé à une nouvelle étape?
Ça dépend, il y a des, ce qu'on appelle des auto-splitters, effectivement, qui regardent l'écran ou la mémoire du jeu, ça arrive aussi, sur les jeux PC notamment, pour définir effectivement quand est-ce que passer à la prochaine étape automatique. Il y a aussi un logiciel qui avait été fait pour regarder l'écran justement et quand il y a un certain truc qui apparaît à l'écran, pouf, il déclenche la prochaine étape. Mais sinon, la plupart du temps, effectivement, c'est toi qui appuies sur un bouton en fait de ton clavier, sur une touche de ton clavier pour faire ce qu'on appelle splitter, c'est-à-dire passer à la suite.
D'accord.
Voilà, donc tout simplement, c'est un timer, hein, c'est vraiment un chronomètre. C'est un chronomètre
étape.
Voilà, mais cherchez le mot, mais un mot plus pour indiquer. Mais voilà.
En fait, quand le but du speedrun, ça va être d'aller toujours plus vite, donc d'améliorer ses performances. Et LightSplit, il va nous aider à savoir, je finis le niveau 1 en 1 minute, je finis le niveau 2 en 2 minutes. Peut-être que la prochaine fois, je vais vouloir finir le niveau 2 en 1 minute 30. Et comme ça, on va pouvoir se dire, mon meilleur temps théorique, ce sera 30 minutes, parce que je suis capable de finir chaque niveau dans tant de temps. Et en fait, on va savoir vers quel meilleur temps on va tendre. Donc, c'est un outil qui est super utile pour les speedrunners qui veulent s'améliorer à chaque fois qu'ils lancent un nouveau run, quoi.
Bien sûr.
Et pour la connaissance de tous les jeux aussi, il faut savoir que les segments, ce qu'on appelle les segments, donc chaque partie, c'est pas forcément. Alors on peut en récupérer, il y en a déjà des préfets des fois partagés par les communautés, mais généralement c'est le runner en fait qui définit ses segments. C'est pour ça d'ailleurs quelques runners ont des noms un peu marrants parce que justement à la fin ils en ont marre et comment ils font des blagues en fait sur leur nom de segment parce que ça les fait plus marrer que de marquer vraiment le nom de la partie.
Du coup, tout le monde joue sur émulateur ou il y a des gens qui branchent leur console? J'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'émulateur.
Mais... Les deux, en fonction de ce que tu as sous la main. Là, devant moi, j'ai une Switch, une NES et une Super NES. Et pour tout le reste, je fais sur émulateur.
Moi, perso, j'ai toutes les consoles chez moi, je collectionne, donc j'en ai beaucoup. Et généralement, alors, c'est un peu compliqué, mais généralement, les runners vont vouloir, enfin ça c'est mon point de vue perso, c'est un point de vue perso aussi que j'ai, mais les runners vont vouloir tendre à jouer sur le matériel original, c'est-à-dire sur la console originale. Par contre, le problème, c'est que ça peut rapidement devenir cher de effectivement pouvoir capturer, donc pouvoir récupérer le signal vidéo et audio de la console pour pouvoir le diffuser et faire des vidéos avec, notamment sur les vieilles consoles, parce qu'il faut acheter du matériel qui permet de, bah, de numériser l'image et justement, ça peut rapidement devenir cher. Voilà.
Ouais. On en parlait avec Fabrice de Recallbox. On a fait un épisode spécial sur la préservation et le rétro gaming et l'émulation en début d'année, en mars. C'était l'épisode 235, pour ceux que ça intéresse. Et on parlait un petit peu du matériel et spécifiquement du matériel pour les vieilles consoles. Oui, ça peut être compliqué, quoi.
Oui, bah on peut rapidement arriver dans 300, 500 euros, tu vois. Ça, c'est pas juste pour le matériel, hein, sans la console, on parle. Et les consoles, bah on peut parler du prix des consoles, mais bon, voilà, c'est un peu vieux.
Le prix des jeux aussi.
Et le prix des jeux. Ouais. Tu veux speedrunner Super Metroid, bah la cartouche te coûtera 130 euros. Allez, merci. Ouais. Mais voilà, donc généralement on run ça quand on a le défaut. Enfin, on a la solution par défaut de runner sur émulateur, mais généralement les émulateurs sont peut-être moins acceptés parce qu'ils sont pas exactement parfaits. Ouais. Et pareil, quand ils sont acceptés, c'est pas tous les émulateurs. Par exemple, prenez sur Recallbox, ça se fait pas. C'est désolé pour Fabrice, mais généralement on le fait pas parce que ce sont des émulateurs qui sont optimisés plus pour avoir une expérience de jeu qui est fluide et tout, plutôt que pour être vraiment parfait à ce que fait la console de base. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment un gros truc intéressant parce que, en fait, des fois, on arrive à, quand on déclenche des bugs ou des trucs dans le genre, on a besoin que la reproduction soit parfaite si on veut d'avoir un truc qui est, on va dire, légitime par rapport à une vraie console. Voilà. Et par exemple, des fois, vas-y.
Pardon, c'est super important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'une ancienne console, ça lag. Et voilà. Le lag fait partie du speedrun et il y a des stratégies pour réduire le lag dans certains jeux en limitant le nombre de sprites à l'écran, par exemple. Fait vraiment partie du speedrun.
C'est ça. Et par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Dragon Ball Advance Adventure sur Game Boy Advance. Le record du monde actuel n'est... Et en fait, pour des raisons, alors je ne vais pas rentrer dans les raisons parce que ça va devenir compliqué, mais de pourquoi il est là le record du monde. Mais le record du monde est fait sur un émulateur qui n'est pas réaliste et du coup qui n'émule pas le lag du jeu. Et du coup, la deuxième personne qui est française, qui s'appelle Superplayer, est assez vénère sur ça justement parce que le problème, c'est que lui, il run sur une vraie console qui a les vrais lags. Et c'est un peu embêtant parce qu'effectivement, l'autre personne joue moins bien et du coup, elle a un meilleur temps juste parce que l'émulateur n'est pas exact. Mais ce qui est marrant, c'est que des fois en plus c'est pas que les émulateurs qui ont ça, et c'est ça qui rend tout ça complexe. C'est que par exemple, je sais pas si tu connais le Super Game Boy, c'est un truc qui permettait de jouer à la Game Boy sur Super NES. Et faut savoir qu'en fait elle tourne plus vite que la vraie Game Boy, du coup c'est interdit en speedrun parce qu'elle tourne un peu plus vite que la vraie Game Boy. Donc du coup, c'est à dire que quelqu'un qui joue sur Super Game Boy sera avantagé par rapport à quelqu'un qui joue sur une vraie Game Boy.
D'accord. Et puis après, j'en parle même pas, mais il y a tous les problèmes du 50 Hz et 60 Hz entre les versions européennes et américaines et japonaises. Quand on parle de vieilles consoles, ça doit être également pris en compte. Donc,
généralement, on joue sur console américaine ou japonaise quand le jeu est dispo.
Il y a des catégories, en fait. S'il y en a qui préfèrent jouer sur des consoles européennes, ils seront dans une autre catégorie parce que le jeu tournera différemment.
Ou il y a des jeux qui sont joués en 50 Hz. Ouais. Il y a des jeux aussi qui sont joués en 50 Hz parce qu'ils sont jamais sortis en 60. Genre par exemple les Schtroumpfs sur Mega Drive, ils sortent que en Europe, donc on joue que en 50.
Mais c'est quand je dis que c'est très fragmenté. Tu vois, un jeu comme les Schtroumpfs, il y a combien de jeux qui sont... On sait combien sont traqués sur speedrun.com? Je suis allé sur speedrun.com et j'ai regardé la catégorie jeux. Il y a 26 000 résultats, donc 26 000 jeux,
c'est ça.
A priori, donc 25 598 spécifiquement. D'accord, ça fait une bonne quantité quand même. Est-ce que, je voudrais qu'on parle de la vie de la communauté et peut-être de l'histoire et des moments importants quand même, mais avant ça, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui aimeraient savoir, parce qu'on a parlé de la théorie, mais dans la pratique, est-ce qu'il y a des glitches de speedrun qui sont mémorables ou qui sont marrants ou qui sont intéressants pour ou peut-être des runs qu'on n'imagine pas, dont on n'imagine pas la vitesse et comment font les gens, des trucs intéressants dans la manière dont les speedruns sont faits qui pourraient intriguer les auditeurs à savoir, que tout le monde connaît dans la communauté du speedrun.
Ouais, il y en a, bien sûr. Il y a, on va dire, un des glitches les plus connus, tu m'arrêtes si je me trompe ou pas, mais c'est le BLJ sur Super Mario 64.
Ouais, pour les connaisseurs de Super Mario 64.
Ouais,
chaque jeu a son glitch.
Chaque jeu a son glitch, mais en gros, il y en a quelques-uns qui sont très connus et qu'on entend même à travers les jeux. Donc, le BLJ pour Mario 64, donc Backward Long Jump, c'est en gros, je le fais à la vie.
Backward Long Jump, donc le
jump, c'est ça. Le saut allongé à l'envers. L'idée, ouais. Dans Mario 64, en fait, les développeurs, ils ont mis une limite maximum à la vitesse quand on avance, mais ils n'ont pas mis de limite maximum à la vitesse quand on recule. Donc, résultat, si on fait. Donc, il y a un saut qu'on peut faire dans Mario 64 qui est le saut en longueur, qui se retrouve qu'on peut le faire en arrière. Et en fait, si on le fait en arrière, en reculant du coup, et qu'on le fait sur un escalier ou un truc qui va nous permettre de le faire très vite parce que, parce que la géométrie du niveau nous l'autorise, et ben en fait, on se retrouve à accélérer très vite en arrière, on peut traverser les murs. Voilà, c'est ah oui. Grosso modo, c'est ça.
D'accord, c'est traverser les murs carrément, voilà. Ok.
Ouais,
parce que genre de, c'est un peu des groupes de glitch, c'est-à-dire que le fait de pas caper la vitesse en arrière, on peut le retrouver dans un jeu complètement différent qui est Half-Life 2, je crois, si je me trompe pas. Et en fait.
Oui.
Maintenant, quand on commence un nouveau jeu, on a toujours des trucs qu'on va essayer parce qu'on se dit, alors, est-ce que les développeurs, ils ont pensé à ça? Non. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Et on a quand même maintenant un bon catalogue des glitches possibles dans chaque jeu.
D'accord.
C'est ça.
Et il y en a qui se retrouvent d'un jeu sur l'autre parce que les mêmes techniques étaient utilisées.
Même moteur de jeu. Généralement, quand un jeu utilise le même moteur, par exemple le moteur Source pour Half-Life, généralement, les mêmes bugs sont trouvables. C'est assez marrant. Voilà, donc il y a effectivement des jeux où même par exemple, tiens, Zelda, le moteur de jeu entre Zelda Ocarina of Time et Majora's Mask est le même, et quand on a trouvé un gros bug un moment, une fois dans le jeu, qui était le... je sais plus si c'était le RBA ou l'ACE, quoi. Enfin, c'est deux bugs assez connus dans Zelda Ocarina of Time. On les a reproduits sur Majora's Mask très rapidement parce que c'est la même règle. En fait, le moteur de jeu, qu'on appelle le moteur de jeu, c'est les règles du jeu, en gros. C'est les règles du jeu, du programme. Et du coup, comme c'est les mêmes règles, en fait, on peut faire les mêmes problèmes. C'est marrant.
Dans le speedrun, j'ai toujours des acronymes de fou, c'est normal. Hein.
Il y a toujours des acronymes, voilà. RBA, je ne vais pas dire ce que c'est, et ACE, je ne vais pas dire ce que c'est non plus, parce que sinon on est parti dans les explications de 30 ans. Mais c'est des gros bugs dans ces deux jeux-là, qui permettent pour l'un de récupérer n'importe quel objet et pour l'autre de littéralement réécrire le code du jeu à la volée. Donc, c'est vraiment dingue. Par exemple, la CE, c'est ce qui permet de finir Zelda Ocarina of Time en 7 minutes. Hein, donc,
7 minutes, mais alors tiens, explique-moi comment on fait, je ne sais pas si Patrick ou Johan veulent faire, mais comment on fait pour finir Ocarina of Time en 7 minutes, sans expliquer tout le jeu, mais je veux dire, est-ce qu'on passe à travers les murs, comment ça se passe, quoi?
C'est inexplicable.
Ça va être de se téléporter à la fin du jeu.
En gros, le but, ça va être de déclencher la séquence des crédits en réécrivant le code du jeu et en fait en écrivant une instruction dans le code du jeu, okay, qui va nous envoyer à la séquence des crédits dans le code du jeu. Voilà.
Comment tu fais pour écrire, parce que tu as quand même que ta manette, c'est pas que tu sors le clavier et que tu vas te mettre à taper du code.
En gros, le jeu, des fois, il vérifie pas trop ce qu'il met en mémoire. Et en déclenchant certains bugs avec certains objets, on peut arriver à mettre ce qu'on veut dans la mémoire en mettant des positions, en se mettant à des positions spécifiques.
Commences par écrire le pseudonyme de ta save déjà. Enfin, le nom de ta save, et ça, c'est quand même pas mal parce que tu peux écrire n'importe quelle suite de caractères dans la mémoire du jeu.
Ouais, donc, t'as plein de moyens, le jeu est mal fait, t'as plein de moyens pour écrire de la mémoire, et en gros tu te sers de effectivement tout ce que t'as, c'est-à-dire des objets, de ta position, de ton pseudo, pour écrire des trucs dans la zone mémoire, et après en fait tout simplement t'écris des instructions qui permettent d'exécuter du code pour aller jusqu'à la fin du jeu.
D'accord. C'est comme tu disais au début, Linkboss, c'est un programme, ça reste un programme informatique, donc on retrouve les mêmes principes que quand tu veux hacker n'importe quel programme, tu interagis avec la mémoire
avec
tu fais en sorte que le programme se plante.
Mais par exemple, pour te donner un truc un peu plus compréhensible, je vais te donner l'exemple d'un autre Zelda qui est aussi mal écrit, qui est Zelda Link to the Past. C'est un truc qu'on apprend en initiation. Donc nous, avec Speedemol, on fait de l'initiation au speedrun, et c'est un truc qu'on apprend en initiation, ça, parce que c'est vraiment faisable par tout le monde. Tout simplement, le jeu, il y a des... Je sais pas si tu as déjà joué à Link to the Past sur Super Nintendo.
Bien sûr.
Oui, il y a longtemps peut-être.
Oui.
Ok.
Je vais dire oui pour ne pas. Oui.
Tu cotes. D'accord. Quand, en fait, en gros, dans le château de Zelda, donc le premier donjon, il y a des le premier et coïncidentalement le dernier donjon aussi. Tu as des niveaux en fait, c'est-à-dire que tu as des escaliers qui te permettent d'aller, de monter, descendre, qui permet aussi de monter, descendre au sein d'un même niveau. Donc où t'as genre, je sais pas, tu as des passerelles, des trucs dans le genre. Et ben en fait, ce que tu peux faire, tu peux en fait si tu redémarres le jeu pendant que t'es en train de sauter d'une passerelle vers le sol. Le jeu, il va plus savoir où t'es. Et du coup, quand tu vas, tu fais ça, tu sauvegardes, tu redémarres le jeu, tu relances, enfin, tu repars sur ta partie, tu revas à la passerelle, tu te fais toucher, le jeu va te mettre sous la carte. Voilà. Et parce que le jeu, il sait plus où t'es, il va essayer de réinitialiser ta position, mais t'es pas au bon endroit. Enfin voilà, donc il va te mettre sous la carte. Et en fait, à partir de là, tu peux naviguer où tu veux, ce qu'on appelle en dehors des limites du jeu. Donc, c'est-à-dire à travers les murs et tout ça. Et tu vas te servir de ça pour aller tout simplement, vu que c'est aussi le premier donjon, mais aussi le dernier donjon, bah, tu vas tout simplement aller directement en passant par le côté de la carte, à l'endroit où il y a le boss final, et passer le boss final, et pouf, t'as fini le jeu. Voilà.
Comment ils ont trouvé ça? C'est fou.
Des heures de recherche et de bug. Ouais,
c'est ça.
D'accord.
Mais voilà.
Ouais. Patrick, tu joues à quoi, toi? Tu fais quoi? C'est quoi tes jeux de prédilection?
Alors, en ce moment, c'est principalement Metroid Dread. Je suis pas mal investi dans le jeu.
Tu fais beaucoup de Metroid de manière générale?
Mon tout premier jeu de speedrun, ça a été Super Metroid, mais juste parce que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Et que...
ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui commencent parce qu'ils aiment tellement le truc qu'ils le refont des dizaines, des centaines de fois.
Ouais, c'est bien de prendre en premier speedrun un jeu qu'on connaît et qu'on affectionne, mais il faut faire attention parce qu'en tant que speedrunner, on a tendance à recommencer 1000 fois quand même les mêmes choses pour s'améliorer, et ça peut un peu dégoûter du jeu à force. Donc ça double tranchant, mais on dit aux gens, prenez un jeu que vous connaissez bien, que vous aimez, pour commencer. Donc moi, je suis un gros fan de la série Metroid.
Ouais.
C'est ça que j'ai commencé dans ça.
Je comprends. Et donc, tu fais que du Metroid ou tu fais d'autres choses aussi?
Ah non, je fais plein d'autres trucs. Je touche un peu à tous les jeux. Surtout, en fait, j'aborde les speedruns plutôt par la compétition. Donc quand il y a une compétition sur un jeu, hop, j'apprends le jeu et je m'y mets. Là, en ce moment, par exemple, il y a l'Ultime Décathlon qui est une grosse, grosse compétition française sur 10 jeux différents. Ça va de Aladdin sur Mega Drive à des jeux très récents, genre Neon White, Tiny Kin, plein de jeux sur PC et tout. Et du coup, j'apprends ces 10 jeux-là et il y aura ce qu'on appelle des races, donc des matchs, plusieurs personnes qui lancent le jeu au même moment et le premier qui finit a gagné.
D'accord.
Donc il y aura des compétitions comme ça jusqu'à mars, je crois, et je vais essayer de gagner. C'est ce qui me motive, moi, dans le speedrun.
Ouais, c'est de gagner. Très bien. j'aimerais qu'on fasse une dernière petite discussion sur la communauté et, on va dire, la vie de la communauté, les moments forts, peut-être historiques ou aujourd'hui. On a beaucoup parlé d'événements. Il y en a un, je pense, dont la plupart des gens ont entendu parler, c'est Awesome Games Done Quick, qui a commencé il y a... À vrai dire, je ne sais pas quand il a commencé, c'est peut-être plus vieux que ça, mais je dirais qu'il y a 5 ans, 5, 6 ans,
non,
il a commencé à gagner en visibilité.
Il y a 12 ans. Il a commencé à gagner en visibilité, un peu plus, mais il y a 12 ans, il a commencé. Le premier Classic Games Done Quick, c'était en 2010.
Ouais, d'accord. Ouais, donc voilà. 12 ans, effectivement, mais je veux dire, c'est sans doute 2015-2016 que c'est rentré dans la... Enfin, que c'est devenu un événement que le public général peut-être perçoit un petit peu plus.
Ouais.
Comment est-ce que la communauté vit aujourd'hui? Et peut-être, comme je disais, historiquement, quelles ont été les étapes importantes qui sont... Enfin, vous n'êtes pas historien du truc non plus, mais que vous connaissez, genre des moments dont vous savez qu'ils ont été importants dans la vie de cette communauté dans le speedrun.
Je pense que oui, la GDQ, ça a été une étape marquante dans le speedrun quand ils ont commencé à le faire des grosses, grosses levées de fonds. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qui lève des fonds pour des associations caritatives. Et quand on a des événements sur des disciplines qui restent des disciplines de niche, hein, le speedrun, qui lèvent plusieurs centaines de milliers de dollars et maintenant plusieurs millions de dollars, je pense que ça a déclenché quelque chose au niveau de la communauté, là, beaucoup de visibilité. Et...
C'est ça.
Et ça attire du monde, peut-être des sponsors, et ça professionnalise le domaine.
C'est ça. La première GDQ à lever le million, c'était en 2014, début 2014.
Mmh.
C'était ouais, un grand truc. Après, moi, je te dirais, la grosse arrivée, le gros truc aussi qui a changé quelque chose, qui a changé la donne, c'était l'arrivée de speedrun.com. Parce que ça a enfin donné un site avec les classements pour fédérer les gens. Parce que le problème, c'est qu'avant, il n'y avait que, comme on disait, un speed demo archive, on en a parlé avant. Qui est, on va dire, pas le plus optimal en termes de représentation, parce que c'est pareil, ils ont un fonctionnement très archaïque. Donc voilà, mais c'était
parce
ça.
Speedrun.com, c'est hyper impressionnant. Enfin, c'est la manière dont tout est géré. On a sur chaque, enfin, on a la liste des jeux, la liste des speedrunners. Mais sur chaque jeu, si on rentre dans le jeu, il y a les différents types de runs possibles. On parlait de Any%. Généralement, il y a quoi, trois catégories, Glitchless, Any% et Full.
100%, ouais. C'est, on va dire, les trois trucs de base. Quoi.
100%. Et donc, Any%, c'est-à-dire que tu peux finir le jeu en finissant aussi peu que tu le souhaites. Glitchless, comme son nom l'a dit, que c'est sans glitch. Mais sur chaque jeu, comme on l'a bien expliqué, il y a plein de types de catégories différentes. Moi, je suis allé voir Super Mario World. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, une quinzaine de catégories de speedrun différents. Ils sont tous... Enfin, le site est designé spécifiquement pour ce but.
Et il y a plus que ça. Hein.
Ouais.
Il y a plus que ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu n'as regardé que Super Mario World, parce qu'en fait, il y a tellement de catégories, en fait, ils ont été obligés de mettre les autres catégories dans un autre jeu qui s'appelle Super Mario World Extra Categories. Et en fait, c'est le même jeu, mais juste... Et si tu regardes celui-là, des catégories, tu en as à peu près 25.
D'accord.
Mais voilà, après c'est des trucs un peu blagues à la fin, c'est ouais. c'est genre par exemple, je sais pas moi, le maximum d'ailes par exemple, où tu essaies de choper toutes les ailes de Yoshi en jouant, enfin c'est n'importe quoi.
Finir le jeu sans appuyer sur le bouton A ou des trucs
comme
ça.
Oui, il y a des choses comme ça.
Il y a beaucoup
aussi,
de choses à améliorer sur speedrun.com.
Je voyais quelqu'un qui essayait de faire Pokémon sans recruter aucun, enfin sans attraper aucun Pokémon autre que ceux que t'as à la base. Donc ce genre de choses. Mais oui, donc l'arrivée de speedrun.com, tu dis, ça a fédéré quand même. C'est le seul vraiment site qui répertorie tout ça aujourd'hui. C'est la référence.
Il y a ça pour le speed, pour les leaderboards et tout, c'est celui-là. Oui. Après, pour les marathons, il y en a un autre qui est arrivé très récemment, qui est arrivé genre en 2019, qui s'appelle Oengus, qui a été réalisé par un Français, Cocorico, qui s'appelle Guillaume. Qui maintenant n'est plus géré par un Français, qui est géré par une organisation de speedrun qui s'appelle l'ESA, qui est en gros le marathon européen en fait, c'est l'équivalent de la GDQ en Europe, l'ESA. Ou d'ailleurs à laquelle va speedrunner ou plat dans quelques mois.
Oui. Et toi aussi tu y seras.
Moi j'y serai, mais je serai à la régie moi pour le moment. Mais parce que je fais partie de la régie là-bas.
ESA. C'est quoi, c'est pour les marathons,
c'est pour le marathon. Un marathon en fait, c'est comme le GDQ en fait. Ce qu'est GDQ en fait, c'est les speedrunners qui pendant une période donnée, généralement c'est soit un week-end, soit pour les plus gros, GDQ, AGDQ et ou ESA et même quelques autres pendant une semaine entière, vont en fait s'enchaîner pour faire des démonstrations de speedrun, donc présenter des speedruns de jeu. H24 pendant toute la durée, c'est-à-dire que par exemple là on parlait de Interglitch où on a tous les deux chopé la crève il y a une semaine, c'était un marathon comme ça. Interglitch, c'est un marathon qui s'est passé à l'Institut du Cerveau, donc à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, il y a une semaine, pendant 48 heures, un peu plus même, pendant 56 heures, enfin c'est vendredi, de vendredi 12h à dimanche 22h, un truc dans le genre, enfin voilà. Pour lever des fonds pour l'Institut du Cerveau, logique. Et du coup, c'est un marathon qui s'est organisé sur ça. Et Oengus, pour revenir au truc, c'est en fait un site qui permet de, on va dire, de fédérer tout ça, dans le sens où il nous propose en fait un outil pour que n'importe qui puisse créer son propre marathon. De la même manière, par exemple, même Speed Demol, nous faisons des marathons, nous avons fait un il y a début octobre. Nous c'était pour lever des fonds pour rien du tout, nous c'est juste pour la pratique, c'est juste pour la beauté du sport comme on dit, Où on a fait un événement, pareil, de 48 heures, où on a présenté des runs, où là, tu n'étais pas là, je crois.
Non, si pas cette fois.
Non. Mais on a présenté des runs pendant 48 heures et on a diffusé tout ça. C'est diffusé, de manière générale, les marathons sont diffusés, ce n'est pas fait juste dans son coin. Mmh. Et en fait, il y en a plein, mine de rien. On en connaît deux, de manière générale, en France. On connaît AGDQ et Speedon. Les personnes qui sont un peu plus, donc Speedon qui est organisé par Mister MV, les personnes qui connaissent un peu plus connaissent peut-être Interglitch, mais voilà, parce que c'est en fait Interglitch, c'est ceux organisés par ceux, donc le French Restream, qui en fait sont ceux qui restreament la GDQ en français, ceux qui font la couverture de la GDQ en français. Donc forcément des fois ils entendent parler, ou ne serait-ce qu'en suivant la chaîne, au bout d'un moment ça arrive, mais il y a plein d'autres marathons qui existent, qui sont organisés par plein d'organisations grandes et petites, comme par exemple comme je disais, l'ESA qui est organisé par l'European Speedrunner Assembly, qui est organisé en Suède tous les 6 mois, sinon il y en a plein aussi en France. Il y a eu, celle que mon association Speedzemol a fait, qui s'appelle donc Run Zemol, nous ça s'appelait notre marathon. Sinon, il y en a eu d'autres, comme un marathon caritatif qui a été organisé par une speedrunneuse qui s'appelle Niniste le week-end dernier, si je ne me trompe pas, pendant une journée, pour présenter, pour lever des fonds pour je ne sais plus qui.
Parce que
les animaux, voilà.
Mais du coup, il y a énormément d'événements, il y en a beaucoup des événements, on l'a compris, mais vous serez d'accord pour dire qu'effectivement, ceux qui sont connus, c'est vraiment la GDQ et Speedon que je connais effectivement, mais tu me l'as rappelé. Je ne sais pas comment le décrire exactement, mais j'ai l'impression que le speedrun, c'est un type de jeu vidéo que les vrais connaisseurs connaissent, mais qui reste quand même relativement confidentiel pour le reste de la population de gamers. Mais quand même, au moment de l'Awesome Game Dunsquick, par exemple, Dunsquick, tout le monde va voir passer un clip d'un truc super marrant, d'un glitch bizarre, si on est un petit peu dans la communauté, c'est un truc qui va sortir de la culture du speedrun et qui va envahir la culture du jeu vidéo en général. Il n'y a que ces deux événements, essentiellement la GDQ, qui ont ce statut. On peut le dire comme ça, non ?
Oui, le speedrun reste une niche de manière générale. Effectivement, il n'y a que ces deux événements-là, à force de l'histoire et parce que c'était le premier. La GDQ, c'est le premier gros, c'est le premier marathon de manière générale. Mais voilà, qui a, on va dire, grossi au point de sorte que quand ils sont là, t'as 100 000 personnes qui regardent en moyenne, 200 000 peut-être des fois en pic sur Twitch. Et l'autre, parce que c'est promu par quelqu'un qui s'est fait connaître avec autre chose que du speedrun aussi. Pas que, il s'est fait aussi connaître par du speedrun, hein, Mister MV, mais c'est c'est aussi parce que c'est un streamer, un gros streamer, point, quoi. C'est, voilà. Et c'est lui qui pousse ça. Si je pense que si il y avait eu Speedon sans Mister MV, je pense pas que ça ferait les chiffres que ça fait. Ce qui paraît logique.
Il y a de gros streamers, je crois, qui font de plus en plus d'événements. Il me semble que Zerator fait aussi des trucs de speedrun de temps en temps. Il fait pas des compétitions pendant la ZLAN.
Ouais, des fois un peu, mais c'est pas connu pour ça, quoi. La ZLAN, c'est plus connu pour être une LAN qu'un événement de speedrun.
Je pense qu'à terme, on aura de plus en plus de gens qui feront des événements de speedrun parce que ça marche bien et c'est agréable à regarder.
C'est ça.
Si c'est bien présenté, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le speedrun, hein. C'est via la GDQ. J'ai vu les toutes premières GDQ. Et après, ça donne envie de creuser un peu plus, quoi. Mais en tout cas, c'est un bon moyen d'aborder la discipline, je trouve.
C'est ça. C'était quoi ta première GDQ, par curiosité ?
La toute première. En fait, je suivais... il me semble qu'il y avait eu Super Metroid, et du coup, j'avais voulu regarder, forcément. Et voilà, première GDQ. Je me souviens, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui runait Contra, et qui a déchiré son t-shirt en plein milieu du run. Voilà, tu voulais des
Angrylinx,
ça m'a marqué, ce truc-là.
Angrylinx, non, ou Mexican Runner, peut-être.
Je sais plus lequel c'était. Ouais, mais c'était
justement, c'est comme... Non, mais dites-moi, je veux savoir aussi les moments mémorables de l'histoire du speedrun. Celui-là a l'air d'être... Moi, je crois pas le connaître. C'est quoi cette histoire? Il a déchiré son t-shirt au milieu d'un speedrun?
Parce que il y a souvent, dans des marathons, il y a souvent cet aspect où les gens vont se déguiser dans le personnage du jeu vidéo, de leur jeu vidéo et tout. Et la Contra, donc c'est l'équivalent de Probotector, pour ceux qui connaissent la version européenne. En gros, Contra, en version US, c'est un... Quoi ? Et qui a un bandana,
le gars... Tu peux répéter, en gros, Contra ?
Contra, ouais. Pardon. C'est l'équivalent de Probotector, je disais. Et donc, aux États-Unis, dans la version américaine, c'est une sorte de Rambo qui est torse nu. Et du coup, le mec qui est en train de jouer à ce jeu, entre deux niveaux, il a déchiré son t-shirt pour se mettre en torse nu, en mode Rambo. Et voilà, moi, ça m'a fait marrer, ça m'a marqué ce truc.
Voilà. Mais après, je te dirais, niveau truc marquant. Bah après, en fait, ça dépend des communautés. Parce que, par exemple, tu vois, moi, les trucs marquants que j'ai, c'est pas forcément les trucs marquants qu'aura Oupla, parce que la communauté est assez fragmentée. Notamment sur certains événements. Par exemple, moi, vu que je fais partie de la communauté de l'ESA, ça fait longtemps, ça fait 5 ans que j'y vais, tout le temps. Je vais reprendre d'ailleurs une carte d'abonnement la compagnie aérienne. Le speedrun là-bas, par exemple, ça a donné quelques moments marquants. Genre, par exemple, il y avait eu un truc qui avait été fait à l'ESA qui était marquant, qui était un speedrun de Mario 64, ok, 70 étoiles, c'est-à-dire finir le jeu, on va dire, je vais pas dire en glitchless, mais on va dire comme les développeurs le pensaient, c'est-à-dire sans essayer de couper et d'avoir moins d'étoiles. Il y avait 70 étoiles, donc et si on donnait une étoile par personne? Du coup, il y avait 70 personnes qui ont runné.
D'accord, waouh!
C'est ça, on se passait la manette. C'est ça, on était en relais. J'étais l'étoile numéro, je sais plus combien, 20, je sais plus. C'est écrit sur mon badge.
D'accord.
Mais j'étais une certaine étoile dans le niveau des laves. Pareil, j'ai eu la manette pendant 30 secondes et j'ai fait mon étoile et fin. Et après, c'est passé à la suite.
Le moment de gloire.
C'est un moment assez marrant, justement, et c'était un truc qu'ils ont refait plusieurs fois. Mais il y a plein de trucs comme ça. Et sinon, d'autres moments qui sont, on va dire, un peu plus universels, eux, malheureusement, c'est les moments quand on trouve des tricheurs aussi dans les communes, des gros tricheurs. Parce que ça arrive, il y a des personnes qui, malgré le fait que pour l'instant, soient encore de niche et qu'il n'y ait pas énormément de thunes à gagner, qui trichent pour la gloire.
Minecraft, ça ramène du monde. Hein. Quand tu dis que tu as le record du monde sur certains jeux, tu sais que tu vas avoir beaucoup de gens qui vont venir te voir jouer. Du coup, ça...
Et par exemple, t'as un gros streamer, un gros YouTuber qui s'appelle Dream. On a découvert qu'il trichait. Et le jour où on a découvert qu'il trichait, que la personne il y a une personne qui a justement démontré la triche, ça avait fait des vagues. Et ce qui est marrant, c'est que la personne qui a démontré la triche de Dream, en fait, il y a 3 semaines, en fait, s'est fait démontrer qu'elle aussi a triché. Donc,
c'est peut-être pour ça qu'il a réussi à le voir. Tu vois, il connaissait très bien les méthodes.
C'est possible, oui.
Peut-être, je trouve ça assez marrant. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et des fois, même sur des petits jeux, genre il y a un jeu, ce qu'on appelle Cluster Truck, que tu ne connais absolument pas, on a découvert que le mec avait le record.
Cluster
du monde,
Truck, je le connais, figure-toi.
Ah, tu connais.
Le nom, je connais le nom, tu vois, ça ne s'oublie pas. Ouais. Pardon, tu disais qu'est-ce qu'on a découvert sur Cluster Truck?
Que le mec qui avait le record du monde, en fait, la vidéo était ce qu'on appelle splicée, c'est-à-dire la vidéo était en fait des montages de plusieurs vidéos, en fait, pour présenter un meilleur temps que ce que le mec ne serait capable de faire en une seule fois. Voilà. Alors ça, c'est autorisé dans certaines catégories, qui s'appelle le multisegment, mais le problème, c'est que lui, il présentait ça comme si c'était un seul segment, c'est-à-dire tout fait d'une fois, et ça, c'est interdit.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on découvre ça? Il y a un tribunal avec le Galactus qui descend du ciel et qui dit désormais, tu ne pourras plus participer.
Ça dépend. Généralement, les modérateurs de la commu bannissent le gars. Ouais. Et gros, shame. Mais après, par exemple, par contre, il y a eu un vrai tribunal, entre guillemets, où justement, tu as des référents qui se sont notés, même si c'est sur un vieux jeu, je pense à ça, hein, c'est sur un jeu qui s'appelle Dragster, sur Atari 2600, où t'as le mec qui se targuait d'avoir le record du monde depuis 30 ans, qui s'appelle Rogers, machin oui. Rogers, ouais, voilà, je sais plus quoi, voilà, qui lui, bah, en fait, on a découvert que en fait, c'était des conneries ce qu'il racontait et que juste le. Et pour. Et il y a eu un énorme drama sur une question d'image de l'organisation qui gère ça, ça s'appelle Twin Galaxies.
Oui, sur ces vieux jeux-là, oui, c'est. Effectivement, voilà. Ça a été un gros drama, un... ça.
Voilà, il y a eu un énorme drama sur ça, sur Fred Rogers, je crois, c'est ça son nom, ouais.
Et qui met en procès dès qu'on lui dit qu'il a triché, non
c'est, ouais, c'est ça, c'est le mec qui disait, mais non, mais c'est vrai, j'ai une vidéo que j'ai envoyée que personne n'a vue, enfin voilà.
Et lui, il fait des procès à tout le monde, hein, je crois.
Alors, tu confonds avec Bill Mitch, tu confonds avec le mec de Donkey Kong,
ah, Bill Mitch, oui,
qui, qui est une autre usine à drama, aussi, dans les vieux jeux. Mais voilà, parce que bah du coup, si vous voulez voir ça, c'est un truc qui est assez proche du speedrun, qui s'appelle le, c'est le high scoring en fait, et c'est présent depuis 30 ans et ça existait il y a 30 ans et il y a beaucoup de drama il y a 30 ans là-dessus sur un truc ou même un peu même plus récemment, mais je veux dire il y a eu beaucoup de drama il y a même ne serait-ce que 20 ans là-dessus. Et si vous voulez regarder un documentaire là-dessus qui parle beaucoup de ça et qui parle on parle très bien, regardez King of Kong.
Ouais.
King of Kong,
sur Netflix,
excellent documentaire. Partout
plus, ou je sais plus si j'ai vu sur Netflix ou carrément sur YouTube, mais ouais, King mais of Kong c'est très très bien.
Voilà, et qui montre ce monde, notamment à l'époque où c'était vraiment des gros nerds à peu près tous. Et
contrairement à aujourd'hui, où aujourd'hui c'est.
En vrai, maintenant, dans la commu, t'as à peu près tout le monde. Genre, par exemple, on pourrait parler d'une personne qui a amené Oupla René dans un événement il n'y a pas si longtemps à Caen, qui s'appelle Shigan, qui est en fait juste un prof. En fait, c'est juste complètement un prof, et voilà quoi, c'est un prof, mais speedrun chez.
Mais...
Voilà. Mais oui, ouais. Alors, mais c'est pas, je suis pas le gars avec, les lunettes, les.
Je peux te dire que à l'époque dont tu parles, j'allais dire, on n'était pas des gars avec des lunettes comme ça, mais en fait, oui, je crois qu'on l'était, quand même. Un peu. bon, d'accord. Bah, écoutez, c'est hyper intéressant tout ça. On va se diriger lentement vers la conclusion de l'épisode. J'aimerais vous poser deux questions. À vrai dire trois, mais la première c'est est-ce qu'on a oublié des choses ? Et la deuxième, est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller pour en apprendre plus ? Si des gens ont vu leur... On mettra les liens hein, dans les notes de l'émission, mais si les gens ont eu leur curiosité piquée, on va parler de vos sites évidemment, mais peut-être encore plus que ça. Et puis avant ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oublié de dire, qu'on n'a pas évoquées ?
On n'a pas parlé du TAS,
oui,
juste sur dire deux mots, parce que c'est, je trouve ça très intéressant. Le TAS, c'est Tool Assisted Speedrun, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui programment un outil qui va...
Tool Assisted Speedrun.
Tool Assisted. Ouais. Donc il y a des gens qui vont programmer un logiciel qui va exécuter toutes les commandes de la manette de manière programmatique, on va dire, et qui va proposer le meilleur run théorique d'un jeu.
Ça.
Et c'est assez marrant à regarder parce que ça défie les lois de... Enfin, un humain ne peut pas le faire.
C'est ça.
Et voilà, si vous voulez regarder des tasses de jeux que vous aimez bien et vous comprendrez peut-être rien parce que ça va beaucoup trop vite. Oui. Mais je trouve ça toujours marrant à regarder.
Mais c'est un peu. C'est
est-ce qu'il y a des gens. Excuse-moi, est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à faire des scores qui avaient précédemment. Enfin, ou des speedruns qui avaient été précédemment été réussis que par des TAS ?
Oui.
Il y a des stratégies qu'on dit c'est que c'est TAS only, c'est-à-dire que c'est pas faisable par un humain. Et il y a des gens qui élaborent des stratégies qui se rapprochent très, très, très. Proche de stratégies qui sont faites que par des robots. Et notamment, le tout premier Mario, les gens ont tellement rené dessus, le Mario, Super Mario Bros. 1 sur NES, qu'on s'approche du temps théorique à quelques millisecondes de la machine.
C'est
tellement rené, tellement optimisé.
Ça se compte en images. Maintenant, en fait, ça se compte plus en secondes, ça se compte en images. C'est-à-dire en nombre, 60 images par seconde, donc ça se compte en images, en fait. En combien d'images on est entre le...
Mario
Non, il est en 60.
Il est en 60, d'accord.
Tous les jeux, de manière générale, tous les jeux jusqu'à...
Oui, remarque, c'est 60 Hz. Mais je me demande si c'est pas interpolé.
Bon, non, mais même le jeu nous sort les SNES, ça sort en 60, la NES 64 c'est en 20 à peu près, pas RAM, donc c'est pour ça. Mais sinon 130 de manière générale, 20-30 pour les PlayStation et trucs, et après on repasse en 60. Il y avait un petit moment quand ils sont passés à 3D. Mais par contre, le TAS, qu'est-ce que je veux dire ? Le TAS, c'est un point de vue différent par contre du speedrun. C'est pas genre la meilleure performance instant, effectivement, c'est un travail pour proposer justement un truc parfait, une démo parfaite, ou même une des fois, pas forcément parfaite, mais amusante. Il y a des fois, par exemple, il y a un task qui existe du programme d'entraînement cérébral du professeur Kawashima, où le mec, il fait les opérations mathématiques. Dedans, il y a un truc qu'on doit faire sans opérations mathématiques dessus, mais en faisant que des dessins. Et en fait, le truc, c'est de triquer la console, en fait, pour faire croire que, en fait, la console ne cherche pas à voir ce que tu as écrit, mais à voir si tu as écrit la bonne réponse. Et du coup, bah, en fait, en mettant des trucs un peu marrants, tu peux dessiner un Mario il repère le nombre 3 qui est le résultat. D'accord. Ouais, c'est ça. Et c'est très marrant. C'est très marrant à regarder. Et du coup, pour le TAS, il y a aussi un truc qui arrive, c'est que la règle, c'est que ça soit faisable sur une vraie console. Et du coup, il y a des personnes, notamment TASBot, Edouard Goassé, qui est le mec qui a fait ça derrière, qui en fait s'occupe en fait de faire ce qu'on appelle de la vérification, qui est tout simplement de vérifier que le TAS marche sur une vraie console, même si la plupart du temps c'est fait sur émulateur. De base, c'est conçu sur émulateur. C'est-à-dire qu'ils ingénièrent en fait des outils qui permettent de brancher un ordi à une vraie console, grosso modo. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple, quand vous allez à GDQ, vous avez souvent une démonstration de TASBot, justement, qui montre du TAS, qui fait une démo de TAS en fait sur une vraie console. Et généralement, ils ne montent pas du speedrun, généralement, ils montent des trucs complètement pétés. Ils avaient recodé Mario Maker sur Super Mario World, par exemple. Voilà, c'est. Et quand je dis recoder, c'est pas genre ils ont mis une cartouche modifiée, hein, c'est ils ont mis la vraie cartouche et le TAS en fait il trouve un bug pour pouvoir mettre du code dans la console et il recode Mario Maker à la volée. Et tu fais ah
d'accord. Donc voilà encore une autre catégorie de connexes au speedrun qui pourrait vous amuser. Le TAS, ouais. Super. Bah écoutez, c'était passionnant tout ça. On pourrait encore en parler pendant très longtemps, évidemment. Mais si jamais les auditeurs sont convaincus ou intéressés, est-ce que vous pouvez nous dire où ils peuvent aller pour en savoir plus, pour en voir plus ? Patrick, d'abord. Évidemment, toi, tu fais du speedrun sur Twitch. Où est-ce qu'on te retrouve ?
Ben, sur twitch.tv/oopla, et donc je fais beaucoup de Metroid, comme j'ai dit en ce moment, Metroid Dread et l'ultime décathlon, donc faut pas hésiter à venir poser des questions, je pense que c'est très important. Au début on a l'impression de rien comprendre et ça va, tout va très vite, et faut pas hésiter à poser des questions, toute la communauté de speedrunning est très aidante, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur.
Je mettrai le lien vers ton Twitter ou ton Twitch dans les notes de l'émission. Qu'est-ce que tu préfères ?
Le Twitch.
Le Twitch, très bien. Super, donc twitch.com/oopla.
Twitch.tv.
Twitch.tv. Twitch.tv. Vous savez, Internet, moi, je ne connais pas bien. Hein, c'est nouveau. Johan, où est-ce qu'on retrouve ton activité à toi ?
Eh ben, mon activité à moi, on ne va pas la retrouver sur mon Twitch perso parce que je ne stream jamais sur mon Twitch perso, mais on va la retrouver sur les différents réseaux l'asso dans laquelle je suis, qui est Speedzemol, du coup. Donc on peut la retrouver sur le site officiel speedzemol.com et sur aussi la chaîne Twitch de Speedzemol, twitch.tv/speedzemol, là où nous faisons généralement nous présentons des événements, des marathons et des fois d'autres contenus autour justement du speedrun. Il y a par exemple même dans les marathons qu'on propose de l'initiation qui est faite régulièrement en événement. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter, twitter.com/speedzemol, encore bien sûr, pour avoir tout, mais principalement le site web. Normalement il y a tout sur le site web, il y a notre Discord, il y a notre Twitch, il y a notre YouTube, il y a tout, donc speedzemol.com, et en gros là dessus vous verrez tout ce qu'on fait de manière générale. Et vous pouvez venir même, par exemple, si vous avez un événement pas loin de chez vous où on est, vous pouvez venir dire bonjour. Et vous allez voir, on vous présentera des trucs. Et généralement, comme présent de l'initiation, vous pourrez même commencer vous-même à speedrunner un jeu.
Speedrun.
C'est ça.
Très bien. Et tout ça donc se retrouve sur le site speedzemol.com. De toute façon, les liens seront dans les notes de l'émission. On mettra aussi speedrun.com et même oengus.io. Comme ça, vous aurez tout. Super, ouais. Merci beaucoup à tous les deux, c'était absolument passionnant. Je me demande si je ne vais pas commencer à tester le backwards long jump moi-même.
Bonne chance.
Je vais pas le faire dans la vraie vie parce qu'avec la neige ici en Finlande, ça pourrait mal se terminer. On va essayer sur Mario, c'était Mario 64, hein, c'est ça le backwards.
Oui, c'est ça.
Très bien. Merci à tous les deux.
Merci à toi.
On se quitte là. Je vous envoie plein de bises à tous les auditeurs, à vous deux aussi, hein, y a pas de raison. Et on se retrouve du coup, a priori, j'espère, la semaine prochaine pour un autre épisode, ou sinon la semaine d'après. Enfin, on revient très vite. Grosse bise à tous et à toutes, et à la prochaine. Ciao, ciao.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.